Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi à nouveau vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Edgecock il y a de nombreuses années. J'ai des enfants dans toutes les nations et Dieu a des frères et sœurs dans les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ. Aujourd'hui, je vais parler de la repentance des œuvres mortes. Ce message s'adresse à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent être prêts pour son apparition. Ce message est dédié à ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu dans leur vie, dans le temps qui leur reste. Paul a dit dans Hébreux chapitre 6, verset 1, « C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. » La repentance des œuvres mortes fait partie de tes premières œuvres. Tu as besoin de le faire correctement avant de débuter. Une base solide comprend trois choses. Numéro 1, doctrine du Christ. Numéro 2, repentance des œuvres mortes. Numéro 3, foi en Dieu. Certains retournent faire des œuvres mortes peu après leur nouvelle naissance parce qu'ils n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur et maintenant ils sont incrédules. Paul a dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il est possible de faire la parfaite volonté de Dieu en faisant de Jésus le Seigneur. Nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Tu ne peux faire ce que Dieu demande par l'Esprit que si tu crois en son nom ou en son autorité. Si tu ne crois pas en sa capacité, tu finiras par faire tes propres œuvres à la place. Si tu fais encore des œuvres mortes, tu dois te repentir. Il y a un jugement à la fin. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, versets 12 et verset 13. Je lis Apocalypse chapitre 20, versets 12 et 13. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon son œuvre. Si tu crois que tes œuvres faites dans cette vie sont assez bonnes, elles seront examinées lors de ce jugement final. Si elles ont été accomplies dans la chair, elles ne seront pas suffisantes. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu insistes sur le fait que tes œuvres sont assez bonnes et que tu ne te repens pas des œuvres mortes, tu seras à ce moment jugé. Chaque œuvre que tu crois bonne sera lue au jugement du dernier jour. » Il y a un registre conservé au ciel de tout ce que tu as fait dans cette vie. N'en doute pas. Dieu n'est pas limité par une salle de stockage pour conserver toutes ces informations et ne dépend pas non plus d'un ordinateur. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 30, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Les croyants paresseux espèrent qu'ils pourront aller au paradis à la fin de leur vie en faisant une prière sincère qui rendra Dieu heureux. C'est une croyance très populaire, surtout parmi de confortables croyants nés de nouveau. Elle est basée sur la supposition que Dieu ne tient pas de registre et oublie les détails. Il croit qu'il acceptera une prière religieuse et sincère correctement formulée qui compensera toutes les fois où ils étaient paresseux, vivant dans la chair sur le chemin spacieux qui mène à la destruction. Ceux qui sont sur le chemin spacieux écoutent les émotions et leurs émotions et croient qu'ils sont totalement honnêtes avec eux-mêmes, mais en réalité, ils se trompent eux-mêmes. Paul a dit dans Romains, chapitre 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Donc, à moins que ton esprit n'ait été totalement et complètement renouvelé, que tu ne vives dans le royaume de Dieu de façon constante, tu écoutes en fait une mauvaise voix. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 7, « Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. » Paul était un exemple de quelqu'un qui avait renouvelé sa pensée en suivant Christ chaque jour sur le chemin étroit, et il ne se fiait pas aux apparences. Je crois que chaque personne qui ne fit pas de Jésus le Seigneur maintenant sera dans ce jugement final. Tu peux appeler Jésus Seigneur quand personne n'écoute. Mais dans ces derniers jours, tu devras appeler Jésus Seigneur quand la persécution commencera. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33. Je lis Matthieu, chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup de chrétiens ont déjà renié le Seigneur pour faire ce qu'ils veulent faire dans la chair. Paul a dit dans Galates, chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Si tu n'aimes pas la chair, obéis à l'esprit et marche dans l'esprit. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ta pensée et ta chair te trahiront. Ève a fait un mauvais choix. » Nous lisons dans Genèse chapitre 3, depuis le verset 6 jusqu'au verset 10. Je répète, Genèse chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 10. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, « Où es-tu ? » Verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Et je me suis caché. Adam et Ève ont péché contre Dieu et se sont fabriqués autre chose pour cacher leur nudité devant Dieu. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 30, verset 1, qui dit « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Se cacher n'apporte que du chagrin. Nous lisons encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, depuis le verset 13 jusqu'au verset 16. Ésaïe, chapitre 29, verset 13 jusqu'au verset 16. Verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise au potier, il n'a point d'intelligence. Le temps touche à sa fin quand les gens l'appelle simplement Seigneur dans l'Église et n'obéissent pas à l'Esprit de Christ. C'est se moquer de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup seront laissés derrière, ceux qui appellent Jésus Seigneur et qui continuent à utiliser leur cerveau pour prendre des décisions. Quand les sages ne savent plus quoi faire et que le savoir des prudents est oublié, le temps touche à sa fin. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Le mot « malheur » dans le texte de Strong est le numéro 3759. C'est une exclamation primaire de la douleur, malheur, hélas, malheur. Tu peux t'éloigner de l'iniquité par la conviction et la repentance en vivant dans la lumière sous la direction de l'Esprit. En le suivant, tu apprends aussi et tu reconnais de plus en plus qu'est-ce qui a été dirigé par la chair dans le passé. N'arrête pas ce processus en te cachant à la place. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 21, verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Verset 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne sont dévoilés. » Verset 21, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Quelle est ton attitude face à la lumière? Paul dit dans Hébreux chapitre 4, versets 12 et verset 13, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. De toute façon, tu ne peux pas te cacher de Dieu. Il vaut donc mieux supporter la correction et de se repentir. Paul a dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il fournit tout le reste pour que tu obéisses, car il est Dieu et il est la parole. Il n'y a donc aucune excuse pour désobéir à ses commandements ou pour ne pas suivre ses instructions. » Ton rôle est de retenir et de croire, de te repentir et de croire, pardon. Paul a dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu viens à Dieu, tu dois croire qu'il est Dieu. Il va te récompenser pour l'avoir cherché avec assiduité. Il n'a pas de critères, Dieu est amour. » Mais il est aussi lumière. Dans Genèse, chapitre 3, verset 10, Adam se cachait à cause de la peur. Par le péché, Adam avait perdu la communion et l'intimité avec Dieu qu'il avait connue au début. Ses sentiments ont été affectés et il a écouté ses sentiments et s'est caché. Jésus a dit dans Apocalypse 3, je vais lire depuis le verset 14 jusqu'au verset 17. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon ?» Verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. » Verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ce jugement a été prononcé contre une seule église, mais si tu es tiède et à l'aise dans ce monde, tu devras aussi te repentir. Sinon, Jésus-Christ devrait s'excuser auprès de l'église de Laodicée, et je ne crois pas qu'il le fera. Tu as toujours raison. David a dit dans Psaume chapitre 51, verset 2 jusqu'au verset 4. Psaume 51, verset 2. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 3. Car je connais mes transgressions et mon péché continuellement devant moi. Verset 4. Contre toi seul j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. C'est le moment d'être en accord avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Jésus continua dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 18 jusqu'au verset 20. Verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc tu zèles et reprends-toi. » Verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Si tu te réponds comme Jésus l'a dit ici, fais des premières œuvres correctement et retourne à l'écoute et à l'obéissance de sa voix et ouvre la porte de ton cœur. Il viendra à toi. Ensuite, l'intimité est rétablie. Il n'est pas rétabli en faisant de lui ton sauveur. La repentance doit inclure de faire c'est des œuvres par la foi. Les œuvres que tu fais pour lui seront aussi testées au préalable dans le feu pour s'assurer de leur nature. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 15. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13 ou 15. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. verset 15, « Si l'ouvrage de quelqu'un brûlé, il subira une perte, mais lui-même sera sauvé comme par le feu. » En suivant Christ, tu découvres si les œuvres que tu fais sont encore des œuvres mortes ou non. Tu as donc le temps de te repentir et de faire quelque chose qui est acceptable à la place. Tu peux lire l'histoire de Caïn d'Abel dans la Genèse. Jean dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 12, « Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Caïn était jaloux de son frère. Tu ne peux pas offrir des œuvres si tu détestes ton propre frère en Christ et si tu te mets facilement en colère. Nous lisons aussi dans Jude, chapitre 1, versets 11 et 12. Je lis le verset 11. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. » Verset 12, « Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées dans les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts déracinés. » Si tu es riche, que tu aimes l'argent et les grandes festivités avec de la nourriture donnée aux pauvres, ne pense pas que tu échapperas au jugement, même si tu appelles Jésus Seigneur. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 17, verset 12. « Oh, quelle rumeur du peuple nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte des nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. » La repentance des œuvres mortes signifie que tu fais les œuvres qu'il a prévues et cela peut impliquer un peu de souffrance aussi. Pierre explique dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16 jusqu'au verset 18. 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18, « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Si tu passes par le jugement et le châtiment maintenant, alors cela n'arrivera pas à la fin. Ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile sont en danger car le jugement auquel ils sont confrontés se trouve à la fin et ils n'auront pas le temps de se repentir. Donc, si tu ne te repens pas maintenant, quand tu te fais corriger, il y aura des conséquences. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » C'est une église qui a appris à obéir à l'Esprit instantanément. Dans la Bible amplifiée, Philippiens 2, verset 12 dit, « Ainsi donc, mes chers, comme vous avez toujours obéi, ça veut dire à mes instructions avec enthousiasme, non seulement en ma présence, mais maintenant bien plus encore en mon absence, continuez à travailler à votre salut, c'est-à-dire à cultiver, à réaliser le but et achever pleinement votre propre salut avec révérence, crainte et tremblement, ça veut dire méfiance envers soi-même, avec une sérieuse prudence, tendresse de conscience, vigilance contre la tentation, reculant timidement devant tout ce qui pourrait offenser Dieu et discréditer le nom de Christ. Tu dois être capable d'enseigner et d'apprendre spirituellement, sinon tu continueras à faire des œuvres mortes en utilisant ta pensée. Paul parlait de Jésus et disait dans Tite, chapitre 2, verset 14, « qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Il peut te racheter pleinement quand tu le fais, Seigneur. Tu es censé compléter ton salut par l'Esprit. avec des œuvres excellentes et agréables à Dieu. Paul a aussi dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 9, qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps et les éternels. Il est le Seigneur, il t'a envoyé ici et il connaît donc le plan. N'entre pas en contact avec tes émotions et tes sentiments, mais avec Dieu, écoute-le. Les œuvres que tu fais maintenant après le salut sont celles qu'il a planifiées pour toi et elles sont faciles quand tu te soumets à lui. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9 et 10. Je lis Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu ne peux pas être sauvé en faisant des œuvres de toutes sortes sans Dieu, sinon tu pourrais te vanter. Tu es né dans le péché et ton âme est comme une batterie à l'intérieur qui s'épuise parce qu'elle n'est pas connectée à lui. Ton âme est aussi détruite par la consultation de ta pensée. Ton âme a été conçue pour entendre Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Si tu pouvais être sauvé en faisant des œuvres mortes, tu n'aurais plus besoin d'un sauveur et Christ est mort en vain. Mais sa mort sur la croix du calvaire t'a reconnecté à Dieu. Seuls ceux qui écoutent et obéissent à sa voix ne périront pas. Ne te trompe pas toi-même. Paul a aussi dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Paul était l'œuvre de Christ et il avait été transformé. Les choses anciennes doivent disparaître et toutes les choses doivent devenir nouvelles. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, versets 7, 8 et 9. C'est Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 7. « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Verset 9, « C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Certaines églises rejettent Christ et son enseignement et proposent des commandements d'hommes à la place. Tu te repentiras des œuvres mortes et tu t'appuieras complètement sur le Saint-Esprit pour te diriger si tu es fervent pour Jésus. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Dans le Nouveau Testament, il y avait des Juifs qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit, mais ils se repentaient quand même. Nous lisons dans Actes, dans les livres des Actes, chapitre 19, depuis le verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais lire depuis le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, chapitre 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Non, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Verset 3, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7, ils étaient en tout environ 12 hommes. Le baptême de Jean était un baptême de repentance pour que les Juifs se préparent. Tous les autres Juifs ont rejeté Christ et l'ont crucifié. Nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Les Juifs n'ont pas accepté le Christ comme leur Seigneur. Ceux qui acceptent Jésus le suivent et n'ont pas un ensemble de règles. Nous lisons dans Actes chapitre 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Et il dit, les foules étaient parties et seulement 120 n'avaient pas renié le Christ et suivaient toujours les instructions de Jésus-Christ, comme nous lisons dans les Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. La première leçon pour ses disciples était d'attendre. Ils devaient faire des disciples et les voir faire l'expérience du Saint-Esprit de la même manière. Tu ne dois rien faire sans le Saint-Esprit. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu dois d'abord entrer dans la chair. A dit dans Jacques, chapitre 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Il est possible de tuer la chair. » Paul a dit, dans Romains, chapitre 6, verset 10, jusqu'au verset 13. C'est Romains 6, verset 10. « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, verset 10 dans la Bible amplifiée dit, car par sa mort, il est mort au péché en mettant fin à sa relation avec lui une fois pour toutes et la vie qu'il vit, il la vit pour Dieu en communion interrompue avec lui. Reconnaissez ou considérez-vous comme mort et ne vous écoutant pas, en n'écoutant pas vos émotions et vos sentiments et en n'écoutant pas votre propre pensée. Servez Dieu complètement en vous reniant vous-même et en portant votre croix chaque jour. Il ne suffit pas de penser que votre chair est morte ou de dire une prière. Le mot reconnaître chez Strong est le numéro 3049. Qui veut dire faire un inventaire, c'est-à-dire estimer, conclure, compter, plus maîtriser, estimer, imputer, proférer, raisonner, supposer, penser. Reconnaître ou encore compter signifie faire un inventaire. Commence par faire une liste de toutes les façons dont la chair a accès à ta volonté. Ensuite, commence à fermer toutes les zones qui nourrissent la chair en t'abstenant. Tu dois te méfier des activités que tu as faites dans le passé sans demander au Seigneur, car elles auront certainement renforcé la chair. Si tu commences à discuter avec Dieu et à dire que ceci est correct et que cela est correct, alors tu ne vas pas tuer cette chair. Paul a dit dans Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. » Nous avons été créés pour servir le Christ. C'est la vraie liberté. Si tu fais autre chose que la volonté parfaite de Dieu, tu lutteras pour le faire et la vie ne sera pas facile et pleine de chagrin. Si tu essaies de tuer la chair, soumets-toi à Dieu ou à quelqu'un d'autre qui, tu le sais, suit Christ et a tué sa chair. Ceux qui se réservent le droit de faire ce qu'ils veulent ne tueront jamais la chair. Galates 5, verset 13, dans la Bible amplifiée, dit « Il est absolument clair que Dieu t'a appelé à une vie de liberté. Assure-toi simplement que tu n'utilises pas cette liberté comme excuse pour faire ce que tu veux faire et détruire ta liberté. Utilise plutôt ta liberté pour se servir les uns les autres dans l'amour. » Si ainsi que la liberté grandit. Utilise plutôt ta liberté pour être conduit par l'Esprit en toutes choses, et la chair mourra. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions de la chair, du corps, vous vivrez. Ta vie dépend de l'extermination de la chair pour que tu puisses aussi obéir à Christ. Quand tu ignores la chair, elle aura des problèmes. Elle va crier et demander de l'attention, mais tu l'ignores. Cela fait partie de la mortification de la chair. Alors ne retourne pas l'écouter à nouveau. Tu dois choisir de vivre par l'Esprit à partir de maintenant. Même si la chair n'est pas complètement morte dans tous les domaines, Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tu arrêtes d'écouter la vieille nature en mettant la nouvelle nature. Plus la nature charnelle crie fort, plus elle est proche de la mort. N'aie pas de pitié. Jésus est notre exemple de reniement de soi et de dépassement. Paul a dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14 et verset 15, « Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnées et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. » Verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Jésus était un serviteur et il est mort pour toute l'humanité. Pas seulement pour ceux qui ont cru en lui, il est mort pour donner à chacun la possibilité d'être sauvé. Pour faire ce travail, il n'a pas pensé, mais il a simplement obéi et n'a eu aucun rapport avec le péché en ne cédant pas à son propre esprit, sa pensée ou en ne consultant pas sa propre volonté. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire partant de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. » En faisant de Jésus le Seigneur et en obéissant à l'Esprit, tu seras sauvé. Paul a dit dans Actes chapitre 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans la Bible amplifiée, la même écriture dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire, « Rends-toi à lui, retire-toi de ton propre contrôle et confie-toi à sa garde et tu seras sauvé. » Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Il n'y a pas d'option pour accepter simplement Jésus comme ton sauveur. Si tu crois au Sauveur Jésus-Christ et que tu fais quand même ce que tu veux, tu seras laissé derrière. Quand tu crois que tu l'acceptes comme Seigneur de ta vie, il y a trois choses que tu feras. Numéro 1, abandonne-toi à lui et établis-le comme Seigneur. Numéro 2, ne pas veiller à son propre bien-être et à son confort dans ce monde temporel. Numéro 3, écoute ses instructions par le Saint-Esprit pour qu'il puisse prendre soin de toi et de te garder. Tu dois savoir qu'il n'y a rien de bon en toi. Paul a dit dans Romains chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le laisse, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Ta fondation doit inclure la doctrine ou les enseignements de Christ ainsi que la foi en Dieu. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23 jusqu'au verset 26. C'est dans l'évangile de Luc chapitre 9, verset 23 ou verset 23, où il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Jésus a enseigné deux choses dans ce verset que tu dois faire pour suivre Christ. As-tu entendu un message comme celui-ci à l'église récemment? Ce sont les doctrines et les enseignements de Christ répétés plusieurs fois dans la Bible. Faire de Jésus ton sauveur par une prière ne te sauvera pas. Ce n'est pas dans le menu ici. Tu dois perdre ta vie pour lui ou tu seras un retranché. Pierre a dit dans Actes, chapitre 2, verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Il y a une corruption dans ce monde par le système naturel d'apprentissage, et c'est ainsi que le diable a entré dans l'Église. Le diable a fait appel aux soi-disant leaders chrétiens qui voulaient de la sagesse comme Ève dans le jardin d'Éden, mais qui n'étaient pas prêts à en payer le prix. Elle a été tentée et a plutôt pris de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas de raccourci vers la sainteté. Soit tu es sur le chemin droit, soit tu périras. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Les églises d'aujourd'hui doivent se repentir d'avoir utilisé leur entendement. Paul a dit dans Galates chapitre 6, verset 1, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Les gens ne voient pas la nécessité d'être spirituel. Une personne charnelle ne veut pas poser de questions à Dieu sur tout et défendra son droit d'utiliser sa propre pensée. Dans cette situation, fais preuve de douceur, car sinon tu pourrais être tenté d'écouter toi-même des prétextes et des arguments solides. Paul a dit dans Romains 8, verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On ne peut être spirituellement attentif qu'en faisant entièrement confiance à Dieu. Nous lisons dans Proverbes 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous vivons par la foi en ce que Dieu décide. La confiance en Dieu et la foi en l'amour de Dieu pour nous. Si tu fais confiance à Dieu, tu ne t'appuieras pas sur ta propre compréhension, car c'est le contraire de faire confiance à Dieu. Alors tu le reconnaîtras dans toutes tes voies et tu ne feras plus tes propres œuvres, mais les siennes. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Par la grâce, nous pouvons maintenant demander à Dieu ce qu'il faut faire et obtenir une réponse. Si tu es sage à tes propres yeux, alors tu ne demandes pas à Dieu et tu te retrouves sur un chemin qui te semble juste. Les œuvres mortes comprennent les mauvaises œuvres, mais aussi les bonnes œuvres que Dieu ne t'a pas commandé de faire. Cependant, les leaders charnels se fient plutôt à leurs propres entendements pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Paul parlait des choses de Dieu et disait dans 1 Corinthiens 2, verset 10 et verset 11. Je lis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lesquels des hommes lequel des hommes, pardon, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Tu as besoin de la doctrine de Christ pour le suivre. Les pensées te viendront à l'esprit sans que tu ne les consultes. Jésus dit à ses propres disciples dans Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Église a rejeté le maître des maîtres et utilise le même système d'apprentissage que le monde pour étudier la Bible. Ils feront face au jugement. Tu devrais plutôt t'attendre à ce que le Saint-Esprit t'apporte tes pensées. Nous ne nous enseignons pas nous-mêmes en utilisant notre propre entendement. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » La lecture de l'Écriture était vitale dans l'Église primitive par rapport à l'Église d'aujourd'hui. As-tu lu toute la Bible au moins une fois? Tu devrais lire tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Si tu suis Christ, les enseignements de Jésus devraient te revenir à l'esprit quand tu en as besoin. Garde ta pensée tranquille, crois et demeure en lui. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 et 13, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Verset 13. « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Si le Saint-Esprit te fait penser à une écriture, c'est spirituel. Alors compare-la avec d'autres choses qu'il a déjà dites. Tu dois noter toutes les écritures et tous les messages qu'il a voulu que tu notes dans un carnet. Quand quelque chose est spirituel, le Saint-Esprit rendra témoignage, surtout si cette vérité vient d'un enseignement vraiment de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut dispenser droitement la parole de Dieu. Le psalmiste dit, dans Psaume 139, verset 17, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Les chrétiens charnels qui veulent comprendre la parole écrite de Dieu se retrouvent souvent à l'école biblique pour essayer de comprendre les choses de Dieu avec leurs pensées. C'est presque se moquer de Dieu que de penser que l'homme peut comprendre les voies de Dieu si facilement en utilisant la pensée naturelle ou que les ténèbres peuvent comprendre la lumière. Samuel Chadwick dit, « L'homme qui pense pouvoir connaître la parole de Dieu par une simple étude intellectuelle est grandement trompé. La vérité spirituelle est discernée spirituellement. » Samuel Chadwick était le principal conférencier de Cliff College près de Chesterfield en Angleterre qui a influencé Leonard Ravenhill. Si tu essaies de connaître Dieu en lisant et en étudiant la Bible avec ta pensée, tu perds ton temps. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Tu ne peux pas connaître Dieu sans devenir d'abord un disciple de Christ et le suivre. Jésus est la vérité. Si tu ne te renies pas complètement et si tu ne prends pas ta croix chaque jour, tu resteras charnel. Les personnes que Dieu a utilisées dans le passé ont tout dû souffrir pour Christ. La seule façon de connaître Dieu est de prendre soi-même le chemin droit et de suivre quelqu'un d'autre qui suit Christ. Dans l'édition révisée de « Mes brebis entendent ma voix » au chapitre 1, page 1, Joseph Hitchcock dit « Des milliers de livres parlant de Dieu ont été écrits par des gens qui l'ont connu dans une certaine mesure. Vous pouvez étudier les livres écrits par ceux qui ont été reconnus comme étant de grands hommes et de grandes femmes de Dieu. » Vous pouvez glaner ce qu'ils ont appris de Dieu pendant le temps où ils étaient dans le ministère. Beaucoup parmi ces fidèles serviteurs ont marché avec Dieu pendant 50 ou 60 ans et vous pouvez acquérir une certaine compréhension de qui est Dieu en étudiant leur vie. Cette démarche a été celle de nombreux croyants qui ont essayé d'acquérir plus de connaissances sur Dieu. Beaucoup ont aussi étudié les écrits de Paul, de Pierre ou d'autres dans les révélations sans reprise dans la parole de Dieu. Il est certes possible d'acquérir de cette manière plus de connaissances sur Dieu et sur la manière dont il opère. Mais cette attitude a créé un problème de théologie. L'Église a mis l'accent sur une étude au sujet de Dieu plutôt que sur l'étude de Dieu lui-même. Cette étude à propos de Dieu, nous l'avons appelée théologie, et celui-ci est enseigné dans les séminaires et les écoles bibliques partout dans le monde. Les croyants étudient la Bible ainsi que d'autres livres écrits par des hommes et des femmes de Dieu pour voir ce qu'ils ont à dire sur lui. Mais nous sommes passés à côté de l'essentiel, notre propre étude personnelle et individuelle de Dieu. La véritable théologie n'est pas une étude au sujet de Dieu, mais l'étude de Dieu. Dieu veut que nous apprenions à le connaître en ayant une relation personnelle avec lui. Tu ne peux pas étudier Dieu avec un microscope ou un télescope, il est partout. La seule façon d'étudier Dieu est de voir ce qu'il fait de ta vie quand tu deviens un sacrifice vivant. Le collège biblique est pour les chrétiens confortables qui pensent qu'ils peuvent comprendre les choses de Dieu avec la pensée naturelle. Au moment où tu commences à utiliser ton propre entendement pour essayer de comprendre les choses de Dieu, comment seras-tu sauvé ou échapperas-tu au mal? Tu finiras plutôt dans une prison dorée comme ces dirigeants juifs qui ont crucifié Christ. Pour plus d'informations sur la façon dont le diable peut facilement te tromper en utilisant ta pensée, lis le livre « La prison dorée », édition révisée de Joseph Hitchcock. As-tu compris que ta première obligation est d'obéir à Christ ou de périr? Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 1, 2 et 3, Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Verset 3, « Nous tous, aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Si tu continues à désobéir au Saint-Esprit, comment seras-tu aujourd'hui? Tu n'entends pas la Seigneurie de Christ étant prêchée. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Beaucoup offrent le salut comme une simple prière, mais tu ne peux pas simplement faire de Jésus ton sauveur, c'est comme choisir quelque chose qui n'est pas au menu. L'évangéliste Charles Finney, qui a vécu en 1792 à 1875, était un pasteur presbytérien américain et un leader du second grand réveil aux États-Unis. Le grand évangéliste américain Charles Finney a conduit beaucoup de gens à Christ. Il a décrit ses réunions d'après enquête comme ceci. Ce point a été fréquemment mis en avant pour que chacun donne son plein consentement à Jésus. On leur disait, c'est-à-dire les gens à qui il a prêché, que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sincère aux conditions dans lesquelles Christ les sauverait. On leur disait aussi de chercher les conditions les plus basses sur lesquelles ils pouvaient être sauvés. Des douleurs ont été prises pour faire taire le pécheur et accepter Christ, toute sa volonté, l'expiation, le travail officiel et la relation et les relations officielles. Chacun devait renoncer à tout péché, à toute excuse, à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toutes choses mauvaises dans leur cœur et dans leur vie, ici, maintenant et pour toujours. Si tu veux connaître les doctrines de Christ, alors tu devrais lire les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu. Paul a dit dans Hébreux 5, verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Tu dois d'abord utiliser le lait et le transformer spirituellement. Le lait est une correction et une vérité fondamentale dans la parole que le Saint-Esprit utilise pour ta vie quotidienne. Si tu n'as pas appris à traiter les choses spirituellement, Dieu ne te donnera pas de viande forte. Arrête d'utiliser ta pensée, apprends d'abord à obéir. Jean a dit dans Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Depuis le début, tout est passé par la parole, et rien n'a existé sans la parole. Même le plan de salut est venu par la parole. Jésus est la parole. Nous non plus, nous ne sommes pas arrivés sur cette planète sans la parole. Nous ne devrions pas nous non plus fonctionner sans la parole maintenant. Nous lisons dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les œuvres mortes sont tout ce qui vient de toi. La vie vient de Dieu, seul par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout dans le royaume vient par la parole. Tu dois être autorisé avant de faire quoi que ce soit, car seul Dieu apporte la vie. » Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, verset 3. « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Tu es une âme morte coupée de Dieu, mais ton âme revient à la vie quand tu entends et obéis. Jésus est prêt à être le Seigneur de ta vie. Tu as l'honneur et les bénédictions qui viennent en lui obéissant et en le laissant t'utiliser, mais tu ne peux pas avoir la gloire parce qu'il est la parole et que tout le bien vient de lui. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à un idole, aux idoles. Dieu ne veut pas que tu fasses des œuvres mortes, parce que cela apporterait aussi une malédiction sur ta vie. Il veut plutôt faire le travail à travers toi, afin que les semailles et la récolte soient pures à travers toi. » Paul dit dans Galates, chapitre 6, verset 7, Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si l'on pouvait se moquer de Dieu, il ne serait plus le juge. Il a décidé que tout le monde récoltera ce qu'il a semé, y compris le diable. Paul continue dans Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change tes sommeils. Si tu es né de nouveau, tu as au moins la possibilité de semer dans l'esprit. Mais si tu n'entends pas sa voix ou si tu n'es pas conduit par l'esprit, comment peux-tu semer dans l'esprit? Si tu es né de nouveau, commence à chercher Dieu pour les commandements et les instructions. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 26, « Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. » Le serviteur méchant et paresseux n'a rien fait. Dieu nous a envoyés ici pour un travail à faire. Si tu le laisses faire ce qu'il veut faire à travers toi, tu récolteras ce qu'il a semé à travers toi. C'est une bonne nouvelle. Tu es béni et tu as aussi le fruit de l'Esprit. Cependant, si tu résistes à ce processus, Jésus récoltera encore là où il n'a pas vu au jugement, parce qu'il est Seigneur. Tu dois te repentir d'abord d'avoir fait des œuvres mortes avant qu'il ne soit trop tard. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 16, vous le reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Le temps touche à sa fin, personne ne ramassera les chardons. Les chardons sont le résultat d'œuvres mortes. Alors examine-toi maintenant. Le mot semer dans Strong est le numéro 4687 et il est probablement renforcé à partir d'un autre mot qui veut dire extension, disperser, c'est-à-dire semer. Au sens figuré, au propre, ça veut dire aussi semer, recevoir la semence. Semer est une action que tu ne peux pas faire sans récolter. Tu as créé l'homme pour une autorité pour semer et bénir toute la création en lui transmettant quelque chose de divin et de parfait. Tu as créé l'homme pour le diriger et le représenter. Tu es béni dans ce processus et tu jouis davantage de Dieu parce que tu es un canal de sa bonté. Tu récoltes ce qui a été semé, même si sa bonté ne vient pas de toi, mais de Dieu. Tu es amour et il n'est pas égoïste, mais il obtient la gloire et cela lui revient. C'est un privilège de voir sa bonté couler à travers nous. La semence divine ne peut se faire que dans l'esprit en suivant les instructions par amour et en y obéissant par la foi. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le royaume de Dieu est là maintenant. Mais Dieu ne force personne à obéir. Il règnera avec une verge de fer pendant 1000 ans afin que chacun puisse voir comment sa parole aurait dû être appliquée à la terre. La terre sera transformée et tout le monde sera étonné de voir l'efficacité de la parole écrite et comment elle aurait dû être appliquée. Les scientifiques seront humiliés et tous ceux qui croyaient qu'il n'y a pas de Dieu seront considérés comme des insensés absolus, même s'ils sont un doctorat. Le psalmiste a dit dans Psaume, chapitre 14, verset 1, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont fait des œuvres abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. Dieu n'utilisera pas tout le monde pendant le règne millénaire, il n'utilisera que ceux qui lui obéissent instantanément parce qu'ils sont doux. » Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 5, « Heureux les doux ou les débonnaires, on dit ici, car ils hériteront la terre. Les habitants de la terre verront en peu de temps la terre se transformer en un paradis selon les instructions de Jésus régnant à Jérusalem et la terre sera guérie. Cette guérison peut prendre un certain temps, mais elle ne prendra pas 1000 ans. » C'est ce que dit Pierre dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans, tout sont comme un jour, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de sa patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'apôtre Pierre écrit sa dernière lettre avant d'être crucifié à l'envers selon la tradition et il dit de ne pas ignorer une chose au verset 8. Tu aurais pu penser que c'est quelque chose comme le salaire du péché et la mort ou la seigneurie de Christ. Mais il mentionne comment Dieu voit le temps. Il parle aux élus et leur dit que Dieu contrôle le temps. Au moment où tu te répands et sèmes par l'Esprit, il accélère tout pour que tu bénéficies de l'Esprit et que tu récoltes. Mais si tu pêches, il ralentit tout pour que tu ne récoltes pas les conséquences du péché, te donnant ainsi le temps de te repentir. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but et en action. Quand tu pèches, il peut même sembler que Dieu prend 1000 ans avec toi. Cependant, tu ne te ralentis parce que tu ne t'es pas repenti des œuvres mortes. Nous pouvons apprendre du fait que les Juifs ont passé 40 ans dans le désert alors qu'ils auraient pu faire le voyage, le même voyage en 40 jours. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La fin du monde arrive maintenant depuis environ 2000 ans. Il semble que notre temps est terminé. L'humanité a eu environ 6000 ans pour faire tout ce qu'elle aurait dû faire et a échoué. La terre est toujours en désordre. Maintenant, Christ va montrer comment cela aurait dû être fait pendant le règne de millénaire dans 1000 ans. Il n'aura pas besoin de tout ce temps non plus. Un total de 7000 ans semble être le plan de Dieu. La création en 6 jours semble être égale aux 6000 ans pour l'homme, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, un article explique qu'il y a 2000 ans d'Adam à Abraham et 2000 ans d'Abraham à Jésus. Les 2000 dernières années sont pour l'Église, faisant un total de 6000 ans. Ensuite, il y aura 1000 ans pour le règne de Jésus et ce sera aussi une période où la création pourra se reposer. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Charles Finney savait ce que Dieu voulait en termes de repentance en tant qu'avocat dans sa propre pensée. Cependant, il s'agonissait souvent dans la prière à propos de ses réveils, car les voies de Dieu ne sont pas celles de l'homme. Il a cherché Dieu pour s'assurer qu'il n'aidait pas personne et qu'il n'interférait pas avec les plans de Dieu et qu'il se contentait de servir. On raconte que souvent Charles mettait simplement son doigt dans les pages de la Bible et commençait à prêcher à n'importe quel moment où son doigt tombait. En général, il prêchait pendant 2 à 3 heures et cela coulait de source. Il a souvent essayé de noter sur papier ce que Dieu a dit à travers lui après un grand message, mais Dieu ne l'a pas laissé faire. Paul dit dans Romains 3, verset 4, « Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout temps pour menteur, celui selon qu'il est écrit, afin que toi, tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Un prédicateur laïque méthodiste que j'ai rencontré il y a plusieurs années, Maurice, m'a dit un jour, une chose dont je veux que tu te souviennes, c'est « lâche prise et laisse Dieu être Dieu ». Le psalmiste dit dans Psaume 51, verset 6, « Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. » Dieu ne nous laisse pas passer certains niveaux si nous n'avons pas appris certaines choses au préalable. Notre motivation doit être l'amour, par exemple. Pour plus d'informations sur la façon d'avoir le bon motif, veuillez lire le livre « Comment croire l'amour » de Joseph Hitchcock. Les enfants d'Israël n'entrèrent pas dans la terre promise et même Moïse n'y entrait pas. Souviens-toi que Moïse était aussi la personne la plus humble sur la surface de la terre à cette époque. Donc, je pense que nous ne devons pas avoir l'esprit élevé. Paul dit dans Romains chapitre 11, verset 20, « Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas l'orgueil ni crains. » Si Jésus est le seul Seigneur de ta vie, alors tu apprends toujours ce que tu as besoin d'apprendre au bon moment. Joseph Hitchcock m'a toujours averti de m'assurer que la parole me changeait d'abord. Je suis passé par des leçons difficiles avec Joseph et il m'a dit certaines choses franchement. C'était surtout quand je me servais de ma pensée pour essayer de comprendre les choses de Dieu et que j'avais besoin d'être corrigé. La correction était parfois douloureuse, mais j'ai choisi cela plutôt que de devenir un retranché. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Dieu va mettre un frein au travail que tu fais si tu n'as pas appris ce que tu dois apprendre maintenant. Cherche Dieu avec diligence et travaille à ton salut dans la crainte et le tremblement. N'apprends rien avec ta pensée car tu finiras par tourner en rond comme les enfants d'Israël. Le temps peut passer lentement quand tu n'apprends pas les leçons que tu dois apprendre et quand tu t'amuses, il passe vite. C'est comme ça que ça devrait être. Nous lisons dans Genèse 1, versets 27 et verset 28. Je lis Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme et à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la suggestissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a béni Adam et Ève, mais c'est avant la chute de l'homme, quand il y avait un lien entre Dieu et l'homme. Cependant, le projet de multiplier et de soumettre la terre a dû être retardé à cause du péché. Pardon. Il est intéressant de noter qu'Adam et Ève ont eu Caïn et Abel et ont attendu un certain temps avant d'avoir un autre enfant. Le temps a été créé à notre profit pour que nous puissions nous repentir et changer avant qu'il ne soit trop tard. L'homme a vécu beaucoup plus longtemps après la création et a eu le temps de suivre le plan originel de Dieu. Le plan était que la terre entière soit gouvernée par sa parole à travers l'humanité et non pas que l'humanité gouverne. Une personne a appris la bonne leçon. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Tu peux aussi plaire à Dieu en faisant les œuvres qu'il a prévues pour toi maintenant. Ce que Dieu a fait lors de la création en 6 jours a donné à l'homme une longueur d'avance. Dieu a donné à Adam le jardin d'Éden pour qu'il garde comme exemple de ce qu'il voulait multiplier sur toute la terre. Près de 6000 ans plus tard, sous la direction de l'homme, la terre n'est pas comme le jardin d'Éden. La terre sera restaurée avec la manifestation des fils de Dieu et par Christ dans les 1000 dernières années, mais cela peut aussi commencer en toi par l'Esprit. Paul a dit dans Romains, chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le temps donne à chacun la possibilité de changer, d'obtenir les bonnes bases avant qu'il ne soit trop tard. Une fois que tu as fait le changement par la repentance des œuvres mortes, tu peux vivre dans le royaume de Dieu par la grâce et la foi. Le temps peut aller vite quand tu le fais, Seigneur. Ce qui peut prendre une vie entière peut se produire rapidement quand il est Seigneur. D'un autre côté, Dieu peut tout ralentir pour que tu commences à réaliser que quelque chose ne va pas. Paul a dit dans Hébreux 5, verset 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Le lait doit être utilisé pour se repentir des œuvres mortes. Le lait est destiné à la conviction. » Joseph Hitchcock me rappelait toujours de laisser la parole de Dieu me changer en premier. Utiliser le lait spirituel pour compléter les doctrines, c'est comme un bébé qui joue par terre. Tu as tous tes jouets et tu essaies de fusionner tous ces enseignements ensemble, mais tu ne sais pas comment. Tu essaies de tout faire fonctionner, mais tu n'es pas adroit parce que tu es charnel. Tu ne t'es pas encore repenti d'avoir fait des œuvres mortes, et c'est pour cela que tu es encore un bébé. Tu resteras aussi un bébé à moins que tu n'apprennes à comparer les choses spirituelles avec les choses spirituelles. C'est pourquoi nous te recommandons d'utiliser un carnet pour noter tout ce qui t'apporte de la conviction. Paul a dit, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il n'y a pas mis vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Les croyants mondains font des choses pour eux-mêmes. Certains croient que Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Cela conduit à la jalousie et au conflit. C'est ce qui s'est passé à Corinthe et l'accent a été mis sur le gain matériel. Aujourd'hui, l'Église est très similaire. Peut-être que tu ne crois pas que tu as un Père céleste qui t'aime et qui est là pour prendre soin de toi. Tu es amour, ce qui signifie que Dieu fait tout par amour. Son motif est pur. Il n'est pas égoïste. Si tu crois cela, tu le rendras Seigneur de ta vie. Si tu crois que Dieu t'aime, alors ne reviens pas à la façon dont tu étais avant, où tu t'es forcé d'obtenir tout ce que tu voulais par la chair. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu connaît la fin depuis le début. Il sait si quelque chose doit être essayé ou non. Paul dit dans Romains 8, 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Dieu nous donnera tout, même les choses destinées aux personnes mûres quand nous serons prêts. Au début, va lentement, suis la direction de Dieu et tu éviteras les œuvres mortes. Considère la conviction comme une bénédiction. Jacques dit dans Jacques chapitre 1 verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ne cherche pas d'excuses au péché à cause du temps. Pour faire une œuvre morte, tu dois utiliser ton esprit et être le Seigneur de ta propre vie. De mauvais fruits continueront à apparaître si tu te penches sur ta propre compréhension. La Seigneurie de Jésus-Christ est la seule solution pour le péché. Aussi, si tu viens à Dieu, tu dois croire qu'il est la lumière. Jean a dit dans 1 Jean 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Cela signifie que Dieu ne peut pas être tenté. Comme Jacques dit dans Jacques 1, 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Certains d'entre vous veulent grandir et ne sont pas prêts à recevoir des messages forts. Tu dois d'abord obéir à ce que Dieu dit dans le lait de sa parole. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quand Dieu nous dit de faire des choses, c'est en fonction de ce qu'il a fourni et non pas en fonction de nos ressources limitées. Quand nous n'avons rien, Dieu peut nous utiliser davantage parce que nous ne pouvons pas l'aider et ensuite faire échouer le plan. Le bébé, par exemple, peut essayer d'aider son papa à soulever une lourde valise, même s'il ne peut pas le faire. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. » Confondre les puissants fait partie de ton appel, mais lâche prise et laisse Dieu faire tout à travers toi. Paul continue dans Hébreux, chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans Hébreux 5, verset 14, Paul utilise un autre mot qui se traduit par bon ou bien en français ici. Chez Strong, c'est le numéro 2570. Et il est d'une affinité incertaine, proprement beau, mais surtout au sens figuré bon, c'est-à-dire précieux ou vertueux, pour l'apparence ou l'usage est distingué et qui est proprement intrinsèque, meilleur, juste, bon, honnête, bien, digne. Ce mot « bon » qui signifie « précieux » est utilisé dans Matthieu, chapitre 3, verset 10, Matthieu, chapitre 5, verset 16, Matthieu, chapitre 7, verset 18 et 19, Matthieu, chapitre 12, verset 33, Matthieu, chapitre 13, verset 8, Matthieu, chapitre 13, verset 23 et 24, aussi Matthieu, chapitre 13, verset 27, Matthieu, chapitre 13, verset 37 et 38, aussi le verset 45 et aussi le verset 48. Par implication, le mot « bon » signifie « saint », « précieux », propre à l'usage du maître. Dans ce contexte, le « bon » est de faire ce qui plaît à Dieu. Le mot « mal » dans Hébreux, chapitre 5, verset 14, est le numéro 2556. Et c'est apparemment un mot primaire qui veut dire « sans valeur ». Intrinsèquement tel alors que se réfère correctement aux effets, c'est-à-dire dépravé, objectivement préjudiciable, mauvais, nuisible, bruyant, malade, méchant. Vous devez tout faire dans l'esprit, même lorsque vous examinez vous-même. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez retrouvés. » Le mot « éprouvé » dans le texte Strong est le numéro 96, et il vient d'un autre mot qui veut dire « particule négative, non approuvée, rejetée, par conséquent sans valeur, retranchée, reprouvée. » Tu peux aussi t'examiner en regardant ton fruit. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, c'est l'évangile de Jean, pardon, chapitre 15, verset 5 jusqu'au verset 8. Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu ne produiras pas les fruits de l'Esprit sans rester dans la vigne. Sans lui comme source et sans la direction du Saint-Esprit, tes œuvres sont inefficaces et sans valeur. Paul avait une relation personnelle avec Christ et était déterminé à obéir à Christ, quel qu'en soit le prix. Paul a dit dans Romains, chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Quand Jésus reviendra, la terre sera restaurée. En peu de temps, avec quelques saints qui obéissent à ses instructions, la terre reviendra en paradis. Jésus démontrera ce qui aurait pu se passer sur la terre maintenant en peu de temps. Cependant, si tu dois entrer dans son royaume maintenant, Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 3, Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu auras un travail garanti pour l'éternité s'il est le Seigneur fonctionnel de ta vie. Dépasse le péché et le diable et tu seras promu. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 26 jusqu'au verset 28. Apocalypse 2, verset 26. C'est Jésus qui dit, qui parle ici, pardon. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin est un ange. Nous lisons dans Job, chapitre 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ainsi, quand tu te lèveras le matin, un ange sera là pour t'aider à faire le travail qui doit être fait chaque matin pour les 1000 ans. Tu as ton propre ange tous les matins pour t'assister dans le royaume millénaire parce que tu as appris à servir. Tu n'auras pas cet ange si tu n'as pas appris à te lever tôt tous les matins pour chercher Dieu. Il est possible de faire partie du plus grand gouvernement qui n'a pas de fin. Ton système de communication sera meilleur que les courriers électroniques. Tu n'auras pas un travail de bureau, tu auras besoin d'un ordinateur. Tu auras un ange à la place. Quand tu devras envoyer un message, il passera par le courrier de l'ange et je ne pense pas que personne ignore les instructions de l'ange. Jésus continue dans Apocalypse 2, 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ceci est un message pour les églises. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Tu es de ton côté et essaie de te donner un héritage. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 10, que c'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes son ouvrage lorsque nous demeurons en Christ. Si tu t'es repenti d'avoir fait des œuvres mortes, tu peux commencer immédiatement à faire des œuvres bonnes et agréables. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 2, verset 10 et 11, je lis Hébreux, chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, patience. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. En Christ, tu seras également dans un processus de correction et de châtiment. Il n'a pas honte de t'appeler frère ou sœur si tu es soumis à lui et étant en transformation. À travers le processus de sanctification, nous grandissons spirituellement. Tu apprends l'obéissance en tant que fils de Dieu car tu es conduit par l'Esprit. En restant soumis à lui, tu apporteras la gloire à Dieu. La conviction est une bénédiction. Lorsque tu as une conviction, décide de ne plus écouter ta pensée, car tu finiras par te juger toi-même et par servir la loi à la place de Christ. Paul l'a dit lui-même dans Romains, chapitre 7, verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Crois-tu que la conviction est une bénédiction? Nous vivons par la foi. Donc si tu ne peux pas recevoir la conviction comme une bénédiction, ta croyance est un mensonge. S'il te plaît, examine ton attitude face à la conviction afin de ne pas retomber dans l'utilisation de ta pensée. Ta pensée charnelle peut facilement arriver à des conclusions et des jugements rapides sans le Saint-Esprit, mais ce sera toujours faux. Laisse Dieu te juger avec sa grâce et sa miséricorde maintenant afin que tu ne sois pas jugé quand il apparaîtra. Il veut que tu viennes à la repentance. Si tu ne te repens pas de ce qu'il te montre maintenant et que tu te libères, alors tu entendras Dieu parler du même sujet quand il sera trop tard pour changer quoi que ce soit. Le Saint-Esprit nous a été donné comme un don de Dieu et un don de vie éternelle pour nous aider à nous repentir. Si tu obtiens des réponses et que tu te repens de ce qu'il te montre, alors tu travailles à ton salut par la grâce et par la foi. Souviens-toi que tu es son œuvre et laisse-le achever le travail en toi. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et non par nos propres efforts. Il est donc préférable d'utiliser un carnet pour noter les convictions. Ensuite, cherche un moment pour entrer dans l'esprit et tout traiter avec lui. Si tu es condamné, alors tu es dans la chair. Si tu utilises ton carnet, arrête-toi et reprends-toi. Même si tu peux traiter une liste de péchés dans l'esprit pendant quelques minutes, c'est mieux que de continuer dans la chair. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Si tu ne sèmes pas dans l'esprit, alors tu sèmes dans la chair. Il n'y a que deux possibilités. Si tu veux entendre, connaître et suivre Jésus, je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, prendre la décision de t'engager sur le chemin étroit, semer dans l'esprit chaque jour et faire l'expérience de la repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Éveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1 ». Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Ne laisse pas le diable te détourner de la vérité qui est maintenant disponible par l'Esprit. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, alors je peux te recommander le livre « La prison dorée », édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, tu as entendu un message sur la repentance des œuvres mortes. Tu as l'opportunité de te connecter avec Dieu, de pouvoir l'entendre et d'être conduit par son esprit. Il est celui qui va faire l'œuvre au travers toi. Tu n'as pas besoin de t'efforcer ou de travailler pour produire l'œuvre qu'il a lui-même créée. Toute chose dont tu as besoin spirituellement pour vivre et de fonctionner comme il veut que tu fonctionnes. Ta responsabilité est de te préparer par rapport aux choses qui font obstacle afin que ces œuvres soient accomplies en toi. Il va même t'aider dans ce processus. Laisse Dieu faire ce travail en toi. Comme j'ai déjà mentionné, Dieu peut faire un travail très accéléré en toi. De plus tu te soumets, de plus tu lâches prise, de plus il peut accélérer le travail en toi. Plus tu résistes, plus ralentit le processus. Et nous n'avons plus beaucoup de temps qui reste. Jésus revient bientôt. Laisse-moi prier avec toi maintenant et te confier au Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, tout le monde qui a écouté ce message, Père, tu les as appelés à vivre une vie sainte, conduite par ton esprit, de l'écouter, de s'accrocher à lui, de s'appuyer sur ton esprit. Et Père, tu as pourvu à tout ce dont ils ont besoin par l'écoute de ta voix. Et Père, je prie qu'ils te font leur Seigneur, qu'ils se soumettent à toi complètement et reconnaissent que tu leur montres comment être conduit constamment par l'Esprit. Tu parles tout le temps. Père, je prie que tu les encourages en ce moment pour qu'ils soient fidèles et obéissent à ton esprit, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as apprécié le message aujourd'hui et ton ministère qui aide ceux qui ont le cœur selon Dieu. Si tu veux nous contacter, les détails de nos coordonnées suivront. ainsi qu'un résumé des Écritures qui ont été utilisées durant ce message. Que Dieu te bénisse.